Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz and Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.
Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Maxime Decoux qui nous parle de son actualité, la parution de Faire Trace, les écritures de la Shoah aux éditions Corti. Bonsoir Maxime.
Bonsoir.
Tout d'abord, quelques mots pour vous présenter aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom. Vous êtes professeur de littérature à l'Université Paris-Sorbonne. Vous êtes, avec Nelly Wolf, les fondateurs de l'association Littérature et Judéité, qui vise à promouvoir les études sur les rapports entre littérature et judéité. Et selon ce thème, justement, vous êtes d'ailleurs l'auteur de deux essais, Albert Cohen, Les fictions de la judaïté, et Écriture de la judéité, l'un paru au Classique Garnier et l'autre chez Champvallon. Vous avez par ailleurs publié aux éditions de Minuit plusieurs essais qui interrogent les relations entre authenticité, mensonge, écriture et lecture. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important à signaler, Maxime ?
Non, pas particulièrement. Voilà, à part que j'ai aussi travaillé sur Pérec et Gary beaucoup, donc... Voilà, je pense qu'on a fait le tour.
Voilà, qui reste toujours dans le même thème. Alors, sans heurter votre modestie, parce que je vous connais un petit peu, de dire que vous comptez aujourd'hui parmi les universitaires importants sur les domaines sur lesquels vous travaillez, la littérature, la judéité et les écrivains juifs. Est-ce que je suis un peu dans le vrai ou complètement dans le vrai?
Je serais mauvais juge, mais effectivement, enfin, c'est des domaines qui sont peu investis. Donc, avec Nelly Wolf, on a fait un travail important sur ces questions-là.
Alors, il y a une ancienne, hein, quelque chose qui revient assez régulièrement, dont on n'a pas vraiment la réponse, où chacun a son a priori. Et je vous pose cette question. Est-ce qu'il existe une littérature juive?
Alors, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre en deux mots. Pour ma part, je dirais que c'est une appellation qui en elle-même est problématique, dans la mesure où, si on voulait l'utiliser, il faudrait, elle recouvrirait une très très grande variété d'écritures, ne serait-ce que si on pense à l'œuvre de Patrick Modiano, l'œuvre de Georges Perec, l'œuvre d'Albert Cohen, on voit bien que ce sont des esthétiques qu'il est difficile de rassembler sous une seule étiquette. D'autant que chez tous ces auteurs et autrices, quand la question de la judaïté devient une question importante, elle décide d'un certain nombre de thématiques, mais aussi de formes d'écriture, mais elle n'engendre pas d'unité de perception, ni d'unité d'écriture. Donc l'étiquette me paraît difficile à utiliser et c'est pourquoi avec Nelly Wolf on parle plutôt d'écrivain juif et d'écrivaine juive sans les unifier sous l'idée d'une littérature juive et encore moins d'une écriture juive.
Alors, compte tenu de la situation actuelle, il est difficile, presque indécent, de ne pas parler du contexte et notamment de ces événements glaçants du 7 octobre et ce qui a suivi. Une réflexion m'est apparue qui avait été faite par d'autres par rapport au sujet hein, dont on va longuement parler aujourd'hui, de cette idée de faire trace, les écritures de la Shoah, c'est que les nazis et leurs collaborateurs ont tout fait pour gommer les traces de l'extermination nazie, alors que les événements récents, au contraire, ont été filmés, entretenus, diffusés par les terroristes barbares qui les ont perpétrés. Est-ce que cela, ça vous a inspiré quelque chose? Est-ce que vous y avez réfléchi?
Alors, pas dans le livre, hein, évidemment, puisqu'il est paru deux jours avant l'attaque du Hamas, mais en effet, on n'est pas dans les mêmes... les contextes sont quand même assez différents. Puisque là, c'est une guerre médiatique aussi et qui repose sur la terreur, forme de terrorisme. Donc, il s'agit de montrer. Le génocide, lui, il s'agissait de cacher parce que, en grande partie, alors pour des raisons pratiques, les nazis avaient constaté que lorsqu'ils ont mis en place leur politique d'élimination des malades mentaux en Allemagne, cela heurtait la population allemande. Et donc, pour ne pas avoir à affronter le même type de résistance, il fallait impérativement cacher une partie des opérations pour éviter d'être confronté aux difficultés qui s'étaient déjà posées. Parce que finalement, les nazis ont conscience de se charger d'une tâche qui, moralement, est répréhensible, mais qui, pour eux, à leurs yeux, est nécessaire. Et donc, il y a l'idée que, bon, bah, ils se sacrifient pour le bien de tout le monde, même si les gens ne sont pas d'accord. Et les événements actuels sont pas menés dans le même ordre d'idées, puisque là il s'agit au contraire de terrifier et éventuellement de déclencher un conflit sur toute la région.
Alors, vous avez travaillé sur les écritures de la Shoah, les témoignages. C'est la dernière question que je vous pose sur le sujet. Quand on compare les événements de la Seconde Guerre mondiale à ceux d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est banaliser la Shoah? Est-ce que ça vous semble judicieux? Et je vous pose cette question justement en tant qu'homme de lettres, en tant qu'enseignant, évidemment, pas en tant que politique.
Alors, il me semble que c'est toujours délicat, les comparaisons. C'est-à-dire que quand on utilise des événements historiques, c'est plutôt pour comprendre comment on en est arrivé là. Après, ça peut éclairer dans une certaine mesure, mais il faut toujours être prudent, puisque les contextes, de toute façon, sont toujours très différents. Et il y a un grand nombre de facteurs qui influencent chaque événement d'ordre historique. Donc il faut quand même être nuancé. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale détermine, on peut peut-être pas le comparer, mais on comprend comment ça détermine, alors en grande partie, notamment toutes les attitudes qui ont trait au négationnisme. Là, je pense que oui. Alors, c'est pas une comparaison, mais c'est plus un lien logique.
Oui, comparaison n'est jamais raison.
Hein. Voilà, tout à
fait. Alors, votre actualité qui nous vaut votre présence parmi nous aujourd'hui, c'est donc la parution de cet ouvrage, Faire trace les écritures de la Shoah aux éditions Corti. C'est un ouvrage exigeant et fouillé sur un sujet qui n'a été que très peu abordé, celui d'analyser l'écriture sur et après la Shoah, à la lumière de l'une de ses principales spécificités, l'effacement des traces par les nazis. Évidemment, la première question qu'on a envie de vous poser, pourquoi avoir eu l'idée de travailler sur ce thème en particulier ?
Alors pourquoi ? Il y a deux questions dans le livre, en tout cas. Enfin, il y a deux axes principaux. Il y a la question des écritures de la Shoah et de l'autre, la question de l'effacement. En fait, la question de l'écriture de la Shoah, c'est une question, enfin des écritures de la Shoah, je vais essayer d'utiliser un pluriel pour ne pas simplifier les choses. C'est une question qui m'accompagne depuis longtemps dans mes recherches, puisque mes recherches ont eu cette spécificité de s'intéresser d'abord à la question de l'identité juive et son expression dans un certain nombre d'œuvres du XXe siècle, ce qui est une question différente de la question de l'écriture sur et après la Shoah. Néanmoins, c'est une question qui revient. Donc j'ai travaillé très longtemps sans aborder directement le sujet de la Shoah. Et puis je me suis dit, avec tous les travaux que j'ai faits, j'avais envie de me confronter plus directement à cette question-là, qui est une question délicate. Et j'ai été assez vite frappé par cette récurrence de la question de la trace, la question de comment faire trace et pourquoi est-ce qu'elle était si problématique. Donc je me suis interrogé, je suis reparti de là, donc en travaillant sur le déroulement de la solution finale, et c'est là que j'ai vraiment constaté l'ampleur de ce phénomène. Même si évidemment les traces ont subsisté, il faut quand même le rappeler, hein, le propos n'est pas de dire que toutes les traces ont été effacées, mais que au moment où les écrivains ont pris la plume, donc soit pendant la guerre, soit après, bon, et puis j'étudie jusqu'à la période contemporaine, ils l'ont fait avec cette conscience qu'il y avait un manque, un vide, donc des faits à collecter, à retrouver, pour aller à l'encontre du projet même du génocide, qui était d'effacer non seulement, de détruire l'ensemble du peuple juif, mais aussi la mémoire de son existence et la mémoire de sa destruction.
On a l'impression que dans le titre même du livre et finalement la problématique, il y a comme des précautions. Quand vous écrivez les écritures de la Shoah, c'est pas littérature de la Shoah. Et la question en fait qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que ces écritures de la Shoah, vous qui êtes professeur de littérature, constituent une littérature de la Shoah ? Ce sont des témoignages, ce ne sont pas que des fictions, même s'il y en a aussi.
Oui, alors j'ai voulu en fait ne pas travailler sur des questions qui ont déjà été extrêmement traitées, qui sont celles des questions génériques, c'est-à-dire voilà, ça c'est un témoignage, ça c'est une fiction. Il ne s'agissait pas de retomber dans ces débats-là, il y a déjà de très nombreux essais de grande qualité sur ces sujets-là. Donc, et je voulais envisager donc, cette question de la trace, et il fallait le faire de manière assez large, c'est-à-dire que j'étudie dans le livre aussi des textes qui n'ont pas été d'abord forcément pensés comme des œuvres. Alors, la majorité, oui, mais certains, non. Par exemple, les textes des Sonderkommando, certains ont été pensés comme des œuvres, mais d'autres ont été pensés comme des documents à laisser pour l'avenir. Mais reconnaître, enfin, les envisager, les aborder avec les outils de l'analyse littéraire, c'est aussi les comprendre autrement. c'est aussi voir comment ces textes sont traversés d'affect, d'un désir d'être lu, de trouver quelqu'un à qui parler. Et c'est, me semble-t-il, aussi leur rendre justice et les rendre présents pour les lecteurs d'aujourd'hui.
Alors, écriture de la Shoah, on y revient, c'est finalement quelque chose d'assez large entre le témoignage, le document historique et aussi un petit peu de fiction et de narration. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de ces écritures ?
Oui, donc enfin le fil que je suis est un fil finalement chronologique, puisque, pas exclusivement, mais en grande partie. Donc j'étudie notamment des textes qui ont été écrits pendant les événements, qui ont été écrits et cachés. Textes d'auteurs qui n'ont pas survécu. Donc ça, c'est des textes que j'appelle des textes survivants. C'est-à-dire, c'est des textes qui ont finalement disparu et été retrouvés. Et c'est des textes qui ont été écrits en sachant, avec la conscience, que ces textes n'auront pas de lecteur dans le présent. Donc tout ça détermine des formes d'écriture assez particulières. Alors il y a des journaux notamment, donc on peut penser au journal d'Anne Frank. Moi j'étudie le journal d'Hélène Baer, le journal d'Eti Hilsum. Il y a aussi les textes des Sonderkommando dont j'ai parlé, mais aussi le journal de l'historien Emmanuel Ringelblum qui avait organisé une vaste collecte de documents dans le ghetto de Varsovie justement pour faire trace de ce qui s'y passait. Donc toutes ces œuvres, donc ça c'est les premières œuvres écrites pendant la guerre. Ensuite j'étudie les témoignages qui ont été écrits par les survivants. Alors ici j'étudie aussi des témoignages qui ne portent pas forcément directement sur la Shoah. Donc ça c'est une distinction aussi qui est importante à faire entre les écrits qui vont porter plutôt sur la déportation et ceux qui vont porter sur le génocide, qui sont pas, bien sûr, c'est un phénomène. Ce sont deux phénomènes qui sont liés, mais qui ne sont pas identiques. Et parfois, on a tendance à les confondre. Donc, les écrits d'Anthelme, de Rousset ou de Charlotte Delbault portent sur la déportation en camp de concentration et pas directement sur le génocide. Donc, ces textes-là, je les inclus parce que dans l'après-guerre, c'est eux qui posent le modèle du témoignage auquel on va être habitué. Ensuite, donc j'étudie aussi des textes des années 70, donc plus qui vont avoir un autre rapport aux faits et aux traces. Donc par exemple, le roman, donc là c'est une fiction d'Imre Kertész, Être sans destin, célèbre texte d'Imre Kertész qui a cette particularité de mettre en fiction l'expérience de Kertész. Et aussi de poser la question du savoir qu'on est à même de construire sur les événements, parce que le narrateur est un narrateur naïf qui découvre les événements sans les comprendre. Donc il me semblait que c'était un texte vraiment intéressant et important à inclure dans l'étude. Et puis ensuite des textes des écrivains des générations d'après, donc en particulier la deuxième génération, comme l'œuvre de Georges Perec, donc qui a été enfant caché pendant la guerre. Et là, c'est des problèmes très différents qui se posent, puisque ce sont des gens qui n'ont pas connu les événements, et donc qui questionnent leur propre légitimité à en parler. Et puis ce parcours m'amène aux œuvres écrites de nos jours, donc la littérature contemporaine, avec le développement des enquêtes sur les victimes de la Shoah, dont le grand modèle, c'est Les Disparus de Daniel Mendelssohn en 2006. Et donc tous ces textes, si vous voulez, j'essaye de les examiner pour comprendre comment le rapport à la question de l'effacement et à la question de la trace a modifié les objectifs qu'ils se sont fixés, les formes qu'ils ont adoptées et aussi leur manière dont on les lit, d'être présent parmi nous.
On a l'impression, en vous écoutant et en vous lisant, que ces textes sont quand même assez différents. Est-ce que ça a été une complexité, une difficulté pour vous d'élaborer le corpus qui sera la base de votre étude ?
Alors, en fait, le corpus, il s'est fait un peu de lui-même, parce qu'il fallait que le texte évoque d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, dans le fond ou dans la forme, la question de la trace. Et donc, ou de l'effacement, ou les questions qui sont connexes, comme la question du savoir, qu'est-ce qu'on peut savoir à partir d'un événement dont les traces font défaut. Donc, c'est ces questionnements-là qui ont déterminé le corpus, ce qui fait que, par exemple, La Nuit d'Elie Wiesel, qui est un texte extraordinaire, n'est pas étudié en tant que tel dans l'essai, parce que c'est un texte qui ne pose pas directement cette question et qui m'a de ce fait qui ne s'inscrivait pas dans le déroulement. Donc vous voyez, le corpus, il s'est fait un petit peu de lui-même. Même si, effectivement, j'ai voulu qu'il soit assez ouvert et que, voilà, on passe d'une œuvre à l'autre et qu'on faire découvrir aussi les textes pour les lecteurs et les lectrices le plus possible.
Alors, vous abordez surtout à la fin une question qui m'intéresse, moi, en tant qu'historienne, et qui intéressera aussi probablement les auditeurs et les auditrices de Radio Shalom, c'est le rapport avec l'histoire. Est-ce que ces écrits, qui sont des témoignages, parfois on sait que des témoignages, eh bien, ne reconstituent pas exactement la réalité, ou qui sont parfois des fictions, ou qui sont parfois écrits avec un délai qui ne permet pas de se rappeler précisément les choses, peuvent faire œuvre de témoignages historiques, d'écrits historiques? Quel est le lien, en fait, entre les écrits dont vous retracez le parcours et l'histoire et la trace qu'ils peuvent laisser
Alors, il y a les relations entre ces textes et l'histoire sont des, enfin, et l'historiographie, en tout cas, sont des relations très intéressantes à étudier, très complexes, dans la mesure où elles ont changé, en fait, au cours du temps. Donc, pour les premiers témoins, le premier survivant à écrire, il s'agissait vraiment de documenter les événements parce que c'est une réalité qui, dans l'après-guerre, eh bien, il faut la découvrir, il faut essayer de la comprendre. Donc c'est ce qui guide les textes qui sont ceux d'Anthelme, ceux de Rousset et les premiers de Charlotte Delbo. Au fur et à mesure que le temps va passer, l'objectif, la proximité des textes avec l'historiographie va être moins forte, ce qui va donner lieu à des œuvres beaucoup plus libres et aussi à un certain nombre de fictions, même si bon, le débat sur la fiction, c'est encore un autre débat, on y reviendra peut-être. Donc des écritures beaucoup plus libres et qui vont être moins attachées à faire comprendre ce qui s'est passé. Par exemple, les œuvres d'Anna Langfus, de Piotr Avix, qui sont des textes beaucoup moins structurés et qui ne sont pas portés par cette forme qui cherche à éclairer un système, faire découvrir, comme on peut le voir dans Si c'est un homme de Primo Levi, où vous pouvez lire, donc c'est une œuvre littéraire, mais vous pouvez vraiment la lire comme un texte qui vous apprend des choses très précises sur le fonctionnement des camps. Avec aussi ces textes-là, ils ont été lus dans l'après-guerre comme de purs documents, c'est leur statut d'œuvre qui a été effacé. Et là, par exemple, Primo Levi y a en partie contribué en déclarant qu'il avait écrit Si c'est un homme, sans y penser, sans travailler l'écriture, sans travailler la forme. Donc il a accrédité cette idée que son texte, c'était un pur document et pas une œuvre littéraire. Parce qu'il y a toujours le soupçon que l'œuvre littéraire, elle va retravailler les choses, elle va apporter, elle va... Il y a un risque aussi, qui est le risque de l'esthétique. Finalement, il y a cette crainte qui fait que le travail littéraire est mis, en tout cas, en quelque sorte, en sourdine dans les premiers textes, qui sont fascinés aussi par le modèle du document, avec un certain nombre de textes qui veulent créer des effets de documents ou qui vont convoquer des documents pour accréditer, pour justifier leur travail. Si bien que... Mais les historiens ont utilisé aussi ces textes, parce que c'est des textes précieux, ce qui est moins possible à faire avec d'autres textes qui s'émancipent un peu plus des questions de l'historiographie. Mais en même temps, le modèle de l'historien, c'est un modèle qui revient, qui se repose comme une question pour l'écrivain aujourd'hui, pour tous ceux qui cherchent à enquêter sur les traces des disparus, comme Mendelssohn, comme Ivan Jablonka, comme Marianne Rubinstein, donc dans des enquêtes qui ont été publiées au cours de ces 10 dernières années. Parce que là, il s'agit aussi d'aller... Donc c'est de la micro-histoire, c'est-à-dire qu'il s'agit... l'histoire, elle a été écrite, mais c'est la grande histoire, et maintenant il s'agit d'aller chercher les traces de ceux qui n'ont pas laissé de traces dans l'historiographie officielle, parce que c'était des anonymes et parce que c'est la mort en masse qui leur a ôté leur individualité. Donc là, le modèle de l'historien, à plusieurs reprises, surgit parce que c'est aussi un... L'écrivain doit aussi se faire par moments historien, sans délaisser finalement son approche propre, d'auteur. Et donc c'est faire circuler finalement le savoir entre la littérature et l'histoire que beaucoup d'œuvres contemporaines essayent. avec un et qui voilà et qui montre comment aussi la littérature elle est à même quand elle se nourrit comme ça d'autres sciences humaines, elle est à même de produire aussi ses propres savoirs critiques sur le monde, sur le présent et sur le passé.
Alors c'est la question que j'allais vous poser ensuite, c'est cette question des transversalités qui est à la mode, le partage des champs et des disciplines, histoire et littérature ou écrit, qui forcément d'emblée ne vont pas ensemble, puisque la littérature peut aider à combler des blancs, à inventer des histoires, à narrer des fictions, à rajouter des choses, à en retirer. Est-ce que dans votre démarche, la question de la vérité, elle est importante? Et l'autre aussi, vous l'avez abordé en filigrane, la question du style, de la manière dont les choses sont écrites.
Mmh. Oui, c'est évidemment, ce sont des questions, c'est des questions qui se posent, évidemment, et qui ont été des questions qui se sont posées aux écrivains ou qui ont été des débats qui ont agité la scène littéraire. Je vais prendre simplement un exemple qui est celui de la fiction, que j'évoquais tout à l'heure très rapidement. La fiction, pendant très longtemps, on n'a pas écrit de fiction sur la Shoah. Alors, pourquoi? Parce que une des raisons, c'est que la fiction, elle reconstitue, elle invente. Or, c'est justement un événement qui avait été soumis à une volonté de ne pas laisser de traces, d'être effacé. Donc, et un événement qui a préparé sa propre négation, donc le négationnisme aujourd'hui. Donc, écrire une fiction, ça a été pendant longtemps ressenti comme aller en fait dans le sens de cet effacement, au lieu d'aller contre l'effacement. D'où de fortes tensions, et une des premières polémiques, c'est celle qui apparaît au moment du prix Goncourt d'André Schwarzbart pour Le Dernier des Justes, puisque Schwarzbart choisit une forme fictionnelle, alors délibérément fictionnelle en plus, avec une légende, beaucoup de réalisme magique dans le texte, du merveilleux. Et donc, Schwarzbart, quand il a son prix Goncourt, on l'accuse de déformer les choses. Et en plus, il n'est pas témoin des événements. Donc, il n'a pas cette légitimité. Parce qu'un témoin peut se... La fiction est plus facilement acceptée lorsqu'il s'agit d'un témoin qui a vécu les événements. Par exemple, le deuxième texte de Rousset est une fiction, même si il explique bien que tout ce qui est dit est vrai. Et il donne des annexes avec des cartes et des sources. Donc vous voyez, il y a quand même le besoin de se référer à des documents historiques pour accréditer à partir du moment où le texte est une fiction. Et puis ce débat sur la fiction, il va être relancé à plusieurs reprises par Claude Lanzmann à différents propos. Alors par exemple au moment de la série télévisée américaine Holocaust, puis ensuite avec la liste de Schindler, avec La vie est belle de Roberto Benigni, et puis aussi au sujet de Yann Karski, d'Yannick Enel. Donc, systématiquement, Lanzmann, bon, émet des critiques fortes et qui sont souvent liées à la fiction. D'ailleurs, il le dit, la fiction est la plus grave transgression possible. Pour lui, c'est vraiment... Il y a une expression qui revient dans ce qu'il dit, c'est que la fiction fabrique de fausses archives. Et ça, pour Lanzmann, c'est complètement insupportable. Donc, ce qui explique ces polémiques à répétition et qui vont vraiment peser. Alors, c'est surtout un débat très français. Il est moins fort aux États-Unis, par exemple. Ça va peser vraiment sur l'écriture. Alors qu'aujourd'hui, de toute façon, on se retrouve avec deux possibilités en termes de genre pour écrire sur la Shoah. C'est d'un côté la fiction et de l'autre l'enquête non fictionnelle sur les victimes, comme le fait par exemple Mendelssohn, etc., dont j'ai déjà parlé. Et par exemple, un écrivain comme Laurent Binet, lorsqu'il écrit HHHH, il utilise un narrateur qui va multiplier les commentaires sur son propre texte. Et il y a comme un scrupule permanent parce que son texte se nourrit d'événements historiques, mais le narrateur a une sorte de scrupule à inventer et donc il est sans arrêt en train de commenter cette démarche. Comme si finalement l'ombre de Lanzmann était là par-dessus l'écrivain en train d'écrire et cette méfiance vis-à-vis de la fiction qui pourrait venir déformer la réalité, frelater, alors qu'il s'agit ici de poser des faits parce que c'est un événement qui a été attaqué dans sa factualité.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwarz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom en compagnie de Maxime Descoux qui nous parle de son dernier livre « Faire trace, les écritures de la Shoah » qui vient de paraître aux éditions Corti. J'avais une question à vous poser que je me pose depuis un certain moment. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une littérature de la Shoah, vu la multiplicité des titres qui paraissent régulièrement, ou est-ce que finalement on est dans la littérature française ou la littérature historique? Littérature de la Shoah, est-ce que ça vous parle?
Alors c'est une expression qui reste englobante et qui va pas forcément... qui peut désigner vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Les textes sont tous très, très différents, même dans leur genre, entre les fictions, il y a aussi du théâtre, etc. Donc, il est vrai que si on veut avoir une certaine rigueur dans l'approche, on va essayer d'éviter des catégories trop englobantes. Mais après, bon, ça désigne quand même... Alors, puis ça désigne une littérature plutôt par son sujet. C'est difficile de caractériser une forme littéraire uniquement par un sujet, parce que voilà, les formes sont variées. Il me semble que c'est une appellation qui est peut-être un peu trop englobante en elle-même pour pouvoir être vraiment efficace. Mais après, bon, s'il s'agit simplement de désigner, pour se comprendre entre nous, un corpus vaste, pourquoi pas, hein.
Et vous l'utilisez, cette expression ?
Ben pas dans un essai, j'essaye d'éviter, mais par exemple avec des étudiants, éventuellement, si on peut se faire, c'est plus simple pour se comprendre, on voit tout de suite de quoi on parle.
Alors il y a une tradition en monde yiddish, c'est les livres de mémoire, les mémoires bourreux, qui sont destinés aux enfants, aux petits-enfants, des livres familiaux, et évidemment ces écritures de la Shoah font un petit peu penser à ça. Est-ce que vous connaissiez cette tradition avant d'écrire ?
Oui, tout à fait, d'autant qu'on en trouve des traces dans un certain nombre de textes qui énumèrent des noms. On a ce genre d'énumération dans les œuvres d'Albert Cohen, par exemple, dans Le Dernier des Justes de Schwarzbart. Et il me semble bien, sans avoir de preuves, mais que c'est cette tradition qui transparaît dans certaines pages. Ce style énumératif qui vise à commémorer les disparus, à les nommer, en fait, hein, pour qu'ils soient encore présents.
Alors, on colle évidemment à l'histoire quand on parle du sujet que vous abordez, faire trace. Et dans l'histoire, il y a des étapes dans l'histoire de la Shoah et dans la manière dont elle est enseignée, dont elle est écoutée. Il y a cette période inaudible où les survivants racontaient, mais on ne voulait pas les croire ou on ne voulait pas écouter. Et puis, il y a le procès Eichmann. Et là, on a commencé à vouloir entendre ce qui s'était passé. Et puis, les années 80, 90 et même 2000, où beaucoup de survivants ou d'enfants ont eu envie d'écrire un petit peu ces genres de livres de mémoire ou même de la littérature, il y en a beaucoup. Est-ce que cette chronologie apparaît dans votre recherche ?
Alors, c'est la question de la chronologie, c'est toujours une question extrêmement importante puisque quand on étudie des ensembles d'œuvres un peu vastes. Et il y a eu beaucoup, effectivement, de travaux d'historiens, donc sur l'histoire de la mémoire. La périodisation, c'est celle qui a été retenue pendant un moment, avec des contestations. Il y a eu des discussions à savoir si vraiment il y a eu une période où on ne parlait pas, on n'entendait pas, etc. Mais ce qui apparaît très clairement, en revanche, c'est que les textes littéraires publiés sur... Enfin, les premiers témoignages sont d'abord des témoignages de déportés politiques. En France, en tout cas, les témoignages de Rousset, d'Anthelme. Les témoignages de déportés juifs vont mettre plus de temps à apparaître. Donc, il y a quand même un décalage, mais qui n'est pas forcément un miroir de ce qui se passait dans la société. Donc, cette périodisation, elle importe aussi, puisqu'à partir... À partir du procès Eichmann, en effet, il y a une libération de la parole du témoin. Donc, c'est Annette Wieworka qui a très bien analysé ça. Et qui a des effets aussi sur la littérature. Parce qu'on va avoir dans les années, le procès Eichmann et même la guerre des six jours, d'ailleurs, qui vont remettre dans la littérature cette question de l'identité juive, la ramener. Alors, peut-être, pas seulement de la Shoah, mais aussi de l'identité juive. Et on va avoir dans les années, fin des années, entre 67 et 70, toute une série de publications, de textes qui vont ramener en fait cette question de la judéité qui était moins visible en fait dans les années qui précédaient. Donc je pense en particulier à la danse de Gengis Khan de Romain Gary en 67, la place de l'étoile de Patrick Modiano en 68, et même, alors de manière plus indirecte, mais la disparition de Pérec. Donc qui sont des œuvres, vous voyez, qui, dans cette, entre 67 et 69, des œuvres qui ont des proximités dans leur forme. Beaucoup d'humour, beaucoup de provocation, humour noir. Donc un rapport aussi, des œuvres cultivant volontiers l'ambiguïté aussi. Et qui vont donc s'inscrire dans ce régime mémoriel nouveau qui est en train d'apparaître suite à la libération de la parole. Et d'ailleurs, c'est assez peu de temps après que vont commencer toutes les entreprises de collecte de témoignages à grande échelle, après dans les années 90, avec le fonds Fortunoff à Yale, et puis l'entreprise lancée par Spielberg aussi sur les collectes vidéo de témoignages. Donc il y a une passion du témoignage qui va et qui est toujours assez vive aujourd'hui.
Est-ce que votre livre n'arrive pas à point faire trace quand la dernière génération des survivants de la Shoah ou des enfants cachés est en train de disparaître ? C'est finalement le bon moment. Et puis comment s'écrira cette littérature après cette génération qui nous aura quittés ?
Oui, alors c'est difficile de... J'ai pas de boule de cristal pour savoir comment les choses vont évoluer. Mais il est clair que on est à un moment dans un changement, puisque voilà, les derniers témoins disparaissent, mais on a enregistré beaucoup de choses, il y a beaucoup de textes qui ont été écrits, donc il y a une mémoire qui est riche, dense, avec laquelle les écrivains aujourd'hui ont à écrire. Et donc là, pour l'instant, effectivement, on a soit des fictions, enfin, il y a aussi du théâtre, mais il y a soit des romans sous forme de fiction, soit des enquêtes sur les traces familiales. Mais bon, c'est difficile de savoir ce que cette littérature va donner. Mais moi, il me semble, enfin, un des objectifs de mon livre, c'était finalement que même si les événements s'éloignent dans le temps, il est nécessaire de les garder présents parmi nous. Notamment quand on voit encore... les événements du 7 octobre n'avaient pas eu lieu quand j'ai écrit le livre, mais vis-à-vis de toutes les attaques négationnistes, etc., il me semble que c'est très important. Et puis je vois avec les étudiants, ils sont désireux d'apprendre aussi. Ils connaissent finalement assez mal cette période.
Finalement, ces écrits font trace. Et est-ce que les témoins, ceux qui ont parlé, les gens de lettres qui ont écrit, n'ont pas gagné par rapport à la tentative de destruction ?
Si, certainement. Je pense que, enfin, de toute façon, les historiens ont fait un immense travail, les traces sont là, mais on a encore des gens qui arrivent à nier l'existence du génocide. Mais ça, bon, on n'arrivera pas, on ne peut pas discuter avec les négationnistes.
Oui. C'est Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.
Voilà, et ils ne sont pas, de toute façon, on ne peut pas rentrer dans une logique argumentative avec ce genre de personnes. Mais effectivement, il faut continuer à, malgré tout, à rendre cette mémoire présente avec, donc c'est ce que j'examine notamment dans le dernier chapitre du livre, un certain nombre parfois de dérives dans certaines entreprises mémorielles contemporaines, notamment dans certains dispositifs muséographiques américains qui vont recourir à des hologrammes, par exemple. Donc, des hologrammes avec qui vous pouvez, en fait, le visiteur peut discuter avec un survivant, avec son hologramme, parce que les réponses ont été enregistrées et il y a un algorithme qui recombine les réponses. Donc, vous posez les questions, il vous répond. Et vous avez l'impression que vous discutez avec un survivant. Alors évidemment, là, on frôle le jeu de rôle, le jeu vidéo. Donc il y a effectivement il y a tout un certain nombre de dérives liées au tourisme et à l'industrie de la mémoire aujourd'hui, dont il faut avoir conscience. Mais malgré tout, après c'est aussi la société qui est. Il y a des modes de transmission qui sont plus efficaces que d'autres. Donc il faut aussi, je pense, être pragmatique et se dire que même si certaines entreprises sont condamnables ou sont à la limite de la décence, c'est important aussi de continuer à véhiculer ce qui se passe, et d'autant qu'il y a encore des génocides à l'heure actuelle. Donc, c'est le genre de sujet où il faut...
Qui sont épinés. Alors, c'est un essai passionnant, intéressant, qui examine les procédés d'écriture. Mais il y a encore aujourd'hui, alors, quelques survivants de cette époque, et puis des enfants ou des petits-enfants qui vont être intéressés par lire votre ouvrage, mais d'une autre façon, pour montrer que les preuves continuent d'exister et d'autres les font vivre. Est-ce que quand vous avez écrit, vous avez pensé à ça aussi, à la manière dont le livre sera reçu, à qui il pourrait s'adresser?
Oui, on envisage toujours, même quand on écrit un essai, on envisage toujours des lecteurs, ça c'est certain. Et quand on écrit un livre comme ça, on se dit, on espère qu'on n'écrit pas pour personne et que c'est une écriture qui porte en elle-même sa justification, qui s'inscrit d'une certaine manière dans un devoir de vivre ensemble. Alors, devoir de mémoire, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, faire réfléchir et rendre ces textes. Alors notamment, c'est pour ça que j'ai été aussi travailler sur tous ces textes assez méconnus qui ont été écrits pendant la guerre par des victimes. Il me semblait important aussi de les donner à entendre et de donner envie aux gens d'aller les découvrir, parce que forcément c'est pas toujours facile de se repérer dans dans tout ce qui a été publié, dans tout ce qu'on peut trouver. Donc c'était l'objectif, oui.
Il y a une question classique, mais non moins difficile, pour conclure cette émission. Si en une ou deux phrases vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire votre livre, de l'offrir peut-être ou de le faire lire, qu'est-ce que vous leur diriez?
Alors, c'est en effet une question difficile à laquelle je n'ai pas répondu. Alors, il faut que je trouve une phrase, une seule phrase.
Une ou deux, oui.
Une ou deux, j'ai le droit à deux. Mm-hmm. Okay. Alors, je vais sécher, je sens que c'est difficile. À part résumer le livre, je fais un commercial. Hein, donc, mm-hmm.
Un objectif qui pourrait faire du bien, et notamment en cette période
Moi, il me semble que le... Enfin, je dirais qu'il y a deux objectifs, c'est comprendre à la fois, parce que c'est aussi ce que j'ai essayé de faire, comprendre à la fois comment les choses se sont passées, donc le mécanisme en lui-même de l'extermination et de la dissimulation, et comprendre comment l'écriture en elle-même a porté en fait une sorte d'énergie vitale pour un certain nombre de personnes, qu'il s'agisse aussi de transmettre à un lecteur pour résister à ces phénomènes, pour s'écrire contre l'effacement, comme je dis dans le livre, c'est-à-dire à la fois tout contre, donc collé à l'effacement, et à l'encontre de l'effacement. Donc une écriture qui a réussi, qui a cherché, qui a réussi à faire trace.
Un livre en tout cas qui fera trace, un livre passionnant, intéressant, que je recommande vivement à tout le monde de lire. Merci.
Merci beaucoup.
Maxime Decoux, de nous en avoir parlé. Je rappelle son titre, Faire trace, les écritures de la Shoah, qui vient de paraître aux éditions Corti. Et puis on vous dit à très bientôt.
Merci.
Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz and Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.